Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
Lundi 1er mai, bonne journée, bienvenue au 98.5. Avec de la faible pluie, mais il y a avertissement de pluie pour les prochaines heures dans la région de Montréal. Donc, de la pluie minimalement jusqu'en après-midi. Il y aura toujours des nuages, un petit peu de soleil, mais faiblement. Et faut considérer au total 10 à 20 mm de pluie durant cette période. Ça s'ajoute à ce qui tombe depuis hier soir, ça s'est intensifié durant la nuit. Et les vents devraient souffler de 30, 50 et même 60 km/h ce matin, le maximum prévu, 12 degrés. Pour ce soir et cette nuit, généralement nuageux, peut-être encore un petit peu de pluie, 5 degrés durant la nuit. Et puis demain, mardi, ça commence avec soleil et nuages. C'est un peu une illusion parce qu'on aura des averses au cours de l'après-midi avec un maximum de 14. Pour tout vous dire, là, le soleil va revenir possiblement vendredi, mais au moins jusqu'à maintenant. On nous annonce un très beau week-end. Bon, on commence ce matin par cette entente de principe conclue entre le Conseil du Trésor à Ottawa et l'Alliance de la fonction publique. Donc, les fonctionnaires qui reprennent le travail ce matin, sauf ceux de l'impôt. Total, c'est 120 000 membres du syndicat sur 155 000, dont 35 000 pour l'Agence du revenu. C'est pas le même syndicat. Eux restent toujours en grève. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On sentait que ça allait mieux. Même hier, on nous disait, ben, ça progresse un peu depuis l'offre finale déposée vendredi. En résumé, des augmentations de 12,6% sur 4 ans sont accordées. Il y a également un montant forfaitaire de 2 500 $. Et ajoutons que l'autre élément de la négo, le télétravail. Ça, quand je vois un peu ce qui, disons, émane des discussions, c'est un peu troublant. On nous dit que le gouvernement s'engage à faire une lettre d'entente au cas par cas. Les gestionnaires devront évaluer les demandes de télétravail et fournir une réponse écrite à chacune d'elles. Vous imaginez la paperasse et la bureaucratie derrière ça. Tout ça pour éviter que on ait, par exemple, un gestionnaire qui s'en va dans une direction puis qu'il n'y ait pas une forme d'uniformité dans les critères. Donc, tout ça reste à déterminer, mais oui, le télétravail va faire partie de la vie des fonctionnaires fédéraux, mais on a l'intention maintenant de le faire de façon plus encadrée. Je vais faire le tour de quelques nouvelles. D'abord, vous dire que la ligne bleue fonctionne normalement à Montréal. On a eu des travaux en fin de semaine. Le service devait reprendre hier en fin de journée. Il y a eu des problèmes. Et finalement, ben, on croyait que ça aurait pu durer plus longtemps. C'était des travaux prévus, là, faut le dire. Mais finalement, ce matin, c'est le retour là, pour les stations de métro, notamment Acadie-Outremont, Édouard-Montpetit, Université de Montréal, Côte-des-Neiges et Snowdon. C'est aussi la hausse du salaire minimum au Québec qui passe à 15,25 $. C'est l'augmentation la plus forte d'un coup des dernières années. Il faut remonter, je pense, à la fin des années 90 pour avoir une si grosse augmentation. Vous comprendrez que le patronat réagit rapidement en disant que ça va coûter trop cher aux entreprises, que c'est un fardeau additionnel et que les prix que les consommateurs vont payer seront à la hausse. Peut-être, probablement, que c'est pas toujours simple d'absorber des hausses de salaire minimum comme ça parce qu'il y a aussi un effet sur les employés qui sont, par exemple, à 1 $ de plus l'heure. Bref, quand vous faites les calculs, c'est vrai que ça vous revient plus cher, mais je me souviens pas d'une hausse de salaire minimum qui amène pas son lot de contestations. D'un bord, souvent les groupes de pression trouvent que c'est pas assez, puis d'autre, le patronat, les entreprises vont dire, ben là, on n'arrivera plus, puis les gens vont absorber les augmentations de coûts. Déjà qu'on est dans une période inflationniste, mais on ne peut pas dire que 15,25 $ l'heure, c'est un salaire, disons, très élevé. Et c'est aujourd'hui qu'entre en vigueur également, le 1er mai, il y a beaucoup de choses, là, ce système que les camionneurs du Québec doivent avoir pour leurs déplacements. Donc, ce qu'on appelle le fameux système c'est un dispositif de consignation électronique, le DCE. C'est comme un livre de bord où on enregistre les heures où vous travaillez, vous conduisez. On sait que, en vertu de la loi, vous n'avez pas le droit de conduire des poids lourds plus que 13 heures par jour. Vous devez avoir 8 heures de repos consécutives. Il y a quelques exceptions. Et si ça, c'est pas respecté, ben il y a des amendes qui sont prévues. Mais là, on se fiait sur les notes prises. Puis bon, il y a déjà beaucoup de compagnies qui ont intégré ça à l'intérieur de leur véhicule. Donc, c'est un système pour justement mieux contrôler la fatigue. Et là, je vais vous parler d'une école. On parle de la vétusté des établissements scolaires au Québec. Puis M. Legault, l'autre jour, n'a pas l'air trop sûr. Puis là, on est supposé embaucher des experts indépendants pour aller voir ce qui se passe. Alors, je vous raconte la situation. Ça se passe à La Prairie, l'école Saint-François-Xavier, qui est une école secondaire. Et ils font des inspections régulières. Et là, les parents ont reçu un courriel, puis il y a eu des rencontres en fin de semaine. Les résultats des tests et la décision prise par le Centre de services scolaires des Grandes Seigneuries, par mesure préventive, c'est d'interdire l'utilisation des classes et des escaliers au rez-de-chaussée et à l'étage du bloc central de l'école. Puis là, on dit aux parents, n'ayez crainte, le reste de l'école demeure sécuritaire et les cours peuvent continuer de se donner. Mais pour les autres, ça veut dire que de façon exceptionnelle, aujourd'hui, c'est une journée pédagogique et que les élèves seront en téléenseignement pour le reste de la semaine avant d'être relocalisés dans une autre école. Et ce sera l'école de la Magdeleine, qui n'est pas très loin. Et là, les parents se posent des questions. Il faut récupérer le matériel, il faut fournir le matériel informatique. On va communiquer dans les meilleurs délais les plages horaires disponibles et les modalités. Alors, vous comprendrez que des parents se disent, mais il y a plusieurs questions, là. D'abord, on vient de découvrir ça. Pourquoi soudainement c'est inquiétant? Deuxièmement, pourquoi le reste de l'école semble correct? Puis est-ce qu'on a lieu ou raison de s'inquiéter? Alors, on va parler avec la directrice du centre de services scolaires dans ce coin-là. 6h13 et un petit mot additionnel sur les réalités montréalaises. La ville qui jongle toujours avec sa patate chaude, c'est-à-dire l'élargissement des heures de stationnement payant au centre-ville. C'est 24 heures, c'est un bloc de 24 heures qu'on ajoute. Et jusqu'à 23 heures, par exemple, et très tôt le dimanche, alors que c'est pas avant le début de l'après-midi. Donc, c'est 24 heures au total. Alors, quand il y a eu le tollé, la ville a dit « Ouh, c'est pas ça qui... » supposé se produire, mauvaise initiative, on impose un moratoire de 2 semaines. Ben, le moratoire est fini aujourd'hui. Et on a vérifié hier, et ils ne savent pas quoi faire avec la patate chaude, là. Ils sont en mode consultation, en mode peut-être de projet pilote, on verra, on va vous le dire, on consulte. Alors, ils tentent, bien sûr, de se sortir de ça. On savait très bien que le 2 semaines, c'était probablement une façon de faire passer le vent. Mais tout ça pour vous dire que les heures ne changent pas au centre-ville. Parlons du Soudan. On sait que les combats sont intenses, que les forces en présence, les deux généraux, continuent de mener des opérations militaires importantes. Le Canada qui a dû mettre un terme à ses opérations d'évacuation par avion, c'était trop dangereux. On voit quand même dimanche qu'il y a eu des opérations d'évacuation d'étrangers, souvent par bateau et d'autres déplacements terrestres, mais ça demeure extrêmement volatile. Jean-François Lépine sera avec nous tantôt pour avoir, comme on dit, le portrait global de ce qui se passe. Et un mot aussi sur Mélanie Joly, qui est au Kenya, qui veut jouer un rôle. On verra ce qu'elle peut faire, ce que le Canada veut faire dans ce contexte, mais ça demeure pour l'instant. Et il y a toujours un potentiel de l'effet domino dans les autres pays du coin. Et puis le Globe and Mail revient sur le dossier de la Chine ce matin avec un document daté du 20 juillet 2021 où la Chine, selon les espions canadiens, voit le Canada comme une cible prioritaire, que les Chinois sont prêts à déployer toutes sortes de stratégies, toutes sortes de moyens pour séduire ou pour punir, disons comme les deux approches, des législateurs canadiens, des membres de la diaspora, des étudiants, par exemple, qui sont ici et qui sont placés sous surveillance, notamment quand on voit des étudiants au Canada qui veulent soutenir le mouvement de révolte à Hong Kong. Donc, les liens entre un député de la Chambre des communes et les membres de sa famille. Et on dit qu'un des avantages, c'est ce que conclut le rapport, c'est que le Canada n'a pas de registre officiel de gens qui interviennent au nom de pays étrangers, contrairement à ce qu'on voit aux États-Unis, ce qu'on voit en Australie, et que finalement, disons que de faire ce genre d'opération pour influencer au Canada, c'est relativement facile et sans trop de conséquences. On sait que la Chine a évidemment nié toutes ces allégations. Et d'ailleurs, le SCRS dit que la Chine est de loin le pays qui se met le plus souvent le nez dans les affaires canadiennes. En Alberta, la première ministre Danielle Smith qui va déclencher des élections provinciales aujourd'hui, des élections qui sont prévues pour le 29 mai. Il y a 87 comtés, c'est quand même beaucoup. Et donc, Mme Smith, qui est très controversée, elle dirige le Parti conservateur uni, elle a pris toutes sortes de décisions, a téléphoné, en fait, s'est mêlée d'une cause devant les tribunaux. Et elle fait face à l'ancienne première ministre, Rachel Notley, qui tente d'avoir, cette espèce de match revanche. Et on dit que ce sera très serré quand même comme résultat. Mme Smith est controversée, mais la chef du NPD aussi. Et ça pourrait se jouer à Calgary. Et bizarrement, vous allez comprendre, ils ont annoncé un projet pour un nouvel amphithéâtre à Calgary, 1,2 milliard, qui est conditionnel à la réélection de la première ministre. Maintenant, d'autres nouvelles. La presse nous parle ce matin d'un réseau, et on peut parler au pluriel, là, de réseaux illégaux de vente de vin en ligne. Si je résume ce qu'on raconte, c'est que au Québec, c'est un monopole. Toute transaction passe par la Société des alcools du Québec. Donc, si vous voulez avoir un vin, un scotch, ben faut passer par la Société des alcools. Si vous faites de l'importation privée, ben il y a des agents qui négocient, mais eux, évidemment, font affaire avec la société. Alors, on paie les taxes, les droits, puis tout ça. Parfait. Mais il y a des amateurs de vin et de whisky qui considèrent que le choix est trop limité, que la Société des alcools du Québec privilégie certains gros acheteurs pour certains produits plus rares et plus chers, et que donc ils sont défavorisés. Ce qui fait qu'ils ont créé, et il y en a plusieurs, des espèces de réseaux, des forums, où des collectionneurs se retrouvent, des gens qui ont des bouteilles rares, ou qui veulent acheter des bouteilles rares, puis là, ils font des transactions. Ils n'ont pas le droit de faire ça. Et ils se font démanteler, parfois, mais en gros, la seule raison, c'est que la SAQ veut garder le contrôle. Parce qu'entre vous et moi, là, si j'achète du vin, c'est sûr que vous vendez des bouteilles de vin à vos amis, il n'y a personne qui va vous courir après. Mais qu'il y ait un lieu public d'échange comme ça, ben c'est considéré comme de la vente illégale. Et c'est pas la première fois que j'entends parler de ça, c'est-à-dire de collectionneurs, d'amateurs qui disent la SAQ a sa liste de chouchous, de clients qui dépensent beaucoup. Et pour les autres, ben on n'a pas accès à des produits qui seraient peut-être tentants. Et ça fait longtemps qu'on parle de, et pas juste pour le vin puis le whisky là puis ces produits-là, mais de rendre ça plus démocratique, d'ouvrir. Un monopole, ça a des avantages, mais ça a aussi beaucoup d'inconvénients. Et ça empêche souvent des entrepreneurs de trouver des nouvelles façons de répondre à des clientèles peut-être plus spécifiques. Je dis pas que c'est tout le monde, là. Pas tout le monde là, qui se retrouve sur ces sites-là. Mais, tu sais, de rendre ça plus libre, tu sais, cette espèce de marché hyper contrôlé. Alors, vous pouvez lire ça dans la presse ce matin. Et je veux finir avec quelques nouvelles américaines. D'abord, on a appris ce matin que JP Morgan Chase met la main sur First Republic Bank. C'est une banque qui est en difficulté financière depuis quelques semaines. On sait qu'il y a quelques banques qui ont chaviré dans les derniers mois aux États-Unis. Ça fait deux mois là, qu'il y a cette crise bancaire. Alors là, on achète les dépôts Et ça veut dire que les 84 succursales de cette banque changent de bannière à partir de ce matin. Et on pense que ça va représenter des pertes d'à peu près 13 milliards pour les actionnaires de la banque. Mais les montants sont garantis par JP Morgan. Donc, c'est quand même une transaction majeure qui vient de tomber. Pour ce qui est de l'Ukraine, il y a des sirènes qui ont retenti à Kiev et dans tout le pays après des frappes de missiles russes tôt ce matin. Il y a le pape qui dit vouloir jouer un rôle important, notamment dans le rapatriement d'enfants ukrainiens qui se trouvent en Russie. Il y a un enjeu humanitaire. Et aussi, il invite la Hongrie à ne pas fermer la frontière. Beaucoup de réfugiés se heurtent à un mur de ce côté-là. Et puis, je vais vous parler de violence, puis d'armes à feu. Deux événements en fin de semaine, vous allez me dire isolés, mais qui font quand même réfléchir. À Cleveland, au Texas, donc c'est en banlieue de Houston, ça s'est passé vendredi soir, et c'est un homme qui est à l'extérieur de chez lui, avec une arme à feu, c'est pas clair le calibre, mais il tire des balles, il s'amuse à tirer des balles dans sa cour. Un de ses voisins, qui veut endormir son bébé, va le voir et lui dit, écoute, peux-tu arrêter ça? Et semble-t-il que c'est pas la première fois qu'on lui demande de stopper ses tirs. Tu sais, c'est comme, imaginez-vous, là, vous êtes chez vous, il fait beau, il fait chaud, vous êtes dehors, vous entendez le voisin qui tire du gun. C'est pas un, agréable, puis deux, c'est pas rassurant. Alors, le monsieur était pas content. Il est allé chercher son AR-15 et il a tué cinq personnes, incluant un enfant. Tout ça parce qu'il était frustré. Et donc, il a tué un petit gars de 8 ans. On a retrouvé des femmes assassinées. Les enfants étaient sous les corps. Et le gars s'est poussé, puis on tente de le localiser. Toujours pas de nouvelles de lui. Puis l'autre cas, imaginez-vous, vous êtes à New York, sur la rue, 6h15, rue commerciale, il y a un restaurant japonais pas loin, ça circule beaucoup, il y a de l'activité. Il y a 4 gars qui s'engueulent. Et tu vois la vidéo de la caméra de surveillance. Et le ton monte. Et à un moment donné, un des 4 quitte. Il revient armé et se met à tirer en direction d'un des 3 autres. Mais là, vous avez des gens qui passent, des gens qui transportent des marchandises, des gens qui magasinent. Tout ça à 6h15. Après ça, on se demandera quels sont les enjeux autour de la libre circulation des armes à feu. Puis on pourra toujours bien dire que oui, mais l'anxiété, les problèmes de santé mentale, puis tout ça. Mais il en demeure pas moins qu'il y a plus d'armes qu'il y a de citoyens aux États-Unis.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcand.
On apprenait en fin de semaine que l'école Saint-François-Xavier, qui est à La Prairie, a de graves problèmes de structure, à un point tel que pratiquement du jour au lendemain, on doit déplacer élèves, professeurs de 14 classes. Dans un premier temps, les cours vont se faire à distance et dans quelques jours, probablement la semaine prochaine, on sera en mesure de les relocaliser dans une autre école. Kathleen Morel est directrice générale du Centre de services scolaires des Grandes Seigneuries. Madame Morel, bonjour.
Bonjour, M. Arcand. Merci de m'accueillir.
D'abord, quels sont les problèmes de structure qui ont été détectés?
Donc, en fait, l'école Saint-François-Xavier, c'est une petite école secondaire de 475 élèves, des élèves de première, deuxième, troisième secondaire. En 2021, on a déposé au ministère une demande pour démolir et reconstruire cette école. Donc, à chaque année, on fait des entretiens et des analyses. Et là, jeudi dernier, les experts qui étaient en train d'analyser pour continuer d'entretenir ce bâtiment-là ont remarqué des vulnérabilités dans le béton de la structure du bloc principal. Donc, permettez-moi de juste prendre 10 secondes pour vous expliquer comment l'école est faite là, pour bien comprendre. L'école a été construite en 1950 et au fil des ans a été agrandie et donc il y a plusieurs blocs à cette école-là. D'ailleurs, on a ajouté des modulaires là, pour accueillir plus d'élèves dans cette école-là au fil des ans. Donc, c'est le béton de la structure du bloc principal qui a été construit en 1950 qui présente des vulnérabilités.
Mais là, ça veut dire quoi, ça, des vulnérabilités?
Oui, c'est ça. Donc, les vulnérabilités, c'est que quand les experts font des tests pour évaluer la qualité du béton, ils font des tests en fonction des normes les plus élevées en cas de séisme. Donc, s'il y avait un tremblement de terre à la prairie, est-ce que le béton serait assez solide pour tenir l'école? À ce moment-là, quand on n'a pas la confirmation que le béton résisterait, c'est dans ce contexte-là que les experts nous ont dit ben il y a de la vulnérabilité dans le béton et on doit poursuivre les analyses pour être en mesure de vraiment bien comprendre comment on va pallier à cette vulnérabilité-là.
OK. Trois questions très précises. D'abord, vous me dites qu'il y a un projet de nouvelle école depuis 2021, c'est ça?
Oui.
OK. Ce projet-là, est-ce qu'il a été approuvé ou s'il est toujours, comme on dit, dans les méandres, dans l'attente d'avoir un OK?
Il est toujours en attente d'avoir un OK.
OK. Cette école-là, là, si vous me l'aviez à me décrire, c'est une vieille école, vous avez dit, 1950. Est-ce que c'est une école qui, au fil des ans, là, a manqué d'amour, a manqué d'investissement, puis que là, on n'a pas le choix, faut le passer à autre chose?
En fait, cette école-là, quand on dit manquer d'amour, c'est parce que actuellement, il y a environ 0,5% du budget d'investissement d'entretien qu'on est capable de mettre pour entretenir nos bâtiments. Idéalement, on devrait être capable de mettre 2% du budget. Donc, ce qu'on fait, c'est quand on entretient les bâtiments, on les entretient de façon à aller aux composantes les plus urgentes. Donc, on les entretient pour les maintenir, on les entretient pour les rénover, mais les rénover pour avec les budgets qu'on a. Donc, oui, c'est une école qui actuellement, c'est pas pour rien qu'on demande une démolition-reconstruction. C'est parce qu'on sait qu'il y a bien des composantes qui coûtent plus cher à entretenir qu'à remplacer.
Quand vos experts vont pousser plus à fond la recherche et, par exemple, s'ils découvrent des problèmes structurels plus importants, ça pourrait peut-être accélérer la démolition de l'école puis la construction d'une nouvelle?
On le souhaite. On souhaite ce.
Vous savez pourquoi je pose la question?
Bien sûr.
OK. Je dis pas que c'est pas fondé, là. Mais quand ça traîne puis que ça avance pas, là, puis que le gouvernement, comme on dit, éteint les feux, quand vous prenez la décision de fermer une partie de l'école, de transférer les élèves, là, ça remonte dans les médias puis ça remonte à Québec, là. Ils vont peut-être peser sur le gaz.
Bien, en fait, on a déposé ces demandes-là en 2021.
Ouais.
On travaille fort actuellement avec le ministère de l'Éducation pour établir les dépenses en investissement selon un plan directeur. Donc, moi, ce qu'on souhaite, c'est qu'on puisse planifier, avoir une planification des investissements quinquennale sur 5 ans et non pas simplement annuellement.
Non, je comprends ce que vous me dites, mais c'est parce que là, on se retrouve avec une vieille école où il y a eu sous-investissement, vous faites des examens réguliers, puis là, vous déterminez, un, que cette école-là doit être démolie, faut en construire une autre, puis là, vous arrivez jeudi en disant, ben là, on n'a pas le choix de pousser plus loin. Ce qui fait, la conséquence, là, vous me corrigerez, c'est 14 classes qui sont touchées.
Oui, exactement, 325 élèves qui vont être relocalisés à l'école La Magdeleine, qui est située à 1 kilomètre de l'école.
Puis aujourd'hui, c'est une journée pédagogique, c'est ça?
Oui, donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a décrété une journée pédagogique aujourd'hui, le temps que les enseignants puissent basculer leur enseignement à distance, que les parents, les élèves viennent récupérer leur matériel. On a déployé des flottes d'ordinateurs, des clés Internet pour les familles qui n'ont pas suffisamment d'appareils. Donc, on a remis en place le plan de contingence qu'on a vécu dans le temps de COVID. Là. C'était quelque chose, malheureusement, qu'on avait connu.
Mais c'est parce que pour beaucoup de parents, là, c'est compliqué. Là. Ils apprennent ça jeudi, les deux, mettons, travaillent. Ouais. L'enfant est à l'école. Puis on parle d'élèves de secondaire 2 et 3. Là, ils vont se retrouver pour le reste de la semaine à la maison.
Oui, hier, on a fait une rencontre de parents. On a offert la rencontre en deux modes, donc virtuel et en présence, pour avoir le plus de parents possible. Les questions, évidemment, tournaient autour de si je peux pas me présenter demain à l'école, est-ce que vous pouvez m'accommoder? C'est sûr que la réponse a été oui. Donc, les parents qui pouvaient pas se présenter demain, aujourd'hui, je veux dire, ben, il y avait juste à appeler au secrétariat, puis on avait trouvé une plage de disponibilité là, pour remettre le matériel. Les questions hier qui ont été soulevées, c'est sûr qu'il y a des parents en colère, c'est évident. C'est les enjeux sont soulevés, puis les gens, ils sont vraiment...
Je vais vous donner un exemple de question qu'on m'a soulevée de la part des parents. C'est on arrive vers la fin de l'année scolaire. Quand il y a des inspections régulières, est-ce que les experts auraient pas pu détecter ce problème-là et pousser l'enquête, par exemple, durant la période estivale? Autrement dit, pas arriver à quoi deux mois et moins là, de la fin de l'année scolaire, puis de réorganiser tout ça?
Soyez assurés. Honnêtement, là, vraiment, si on avait pu retarder l'inspection en cours d'été, on l'aurait fait. Ça, c'est sûr. Maintenant, à chaque fois qu'on l'inspecte, ce bâtiment-là, le jour où on a écrit noir sur blanc qu'on ne peut plus utiliser le bloc, il n'y a pas un dirigeant, il n'y a pas personne qui est en responsabilité qui va dire « ben oui, on va continuer de l'occuper puis on va le rendre accessible
okay, ».
Mais... La décision s'imposait.
OK. L'autre question, si les experts trouvent des problèmes plus sérieux à la structure, ça pourrait peut-être compromettre une rentrée scolaire normale à l'automne?
Effectivement, on est en train d'attendre. Hein. On va avoir les d'autres tests d'ici les trois prochaines semaines. Ce qui fait que la relocalisation va être jusqu'à la fin de l'année. Ça, c'est sûr. On a annoncé ça aux parents hier. Et que dans les prochaines semaines, on va tenir informer toute la population, les parents, les médias, si jamais vous voulez que je revienne.
Absolument.
Pour dire, ben voilà comment le plan B va se faire pour la rentrée si jamais on n'est pas capable de réutiliser le bloc central.
OK. Merci beaucoup, Mme Morel.
Un grand plaisir.
Au revoir. Kathleen Morel est directrice générale du Centre de services scolaires des Grandes Seigneuries. On parlait de l'école secondaire Saint-François-Xavier à La Prairie. Et ça vient illustrer une fois de plus les immeubles vétustes. On sait que la semaine dernière, on annonçait une tournée d'inspection. Le premier ministre Legault n'est pas certain si tout croche que ça, si on a des vieilles écoles. Et là, vous le voyez, là, t'as un projet d'école depuis 2021. T'as une école qui est bâtie depuis 1950. Puis là, on examine la structure. OK, ça tient le coup. Ça tient le coup. On n'investit pas trop parce qu'on n'a pas d'argent, mais ça tient le coup. Puis là, tu arrives à la fin de l'année scolaire, puis tu dis, ben là, il y a peut-être un danger. Est-ce que ça va accélérer la construction? Je pense que oui. Ça devient prioritaire. Quand tu es rendu à fermer une école, à transférer des élèves, c'est certain là, que le ministère de l'Éducation, ça vient de passer au-dessus de la pile. Je dis pas que c'est un complot, là. Je dis pas qu'ils font exprès. Puis, vous seriez directeur de l'école, puis vous prendriez la même décision. Mais il y en a combien de ces écoles-là au compte-gouttes qu'on va découvrir par des inspections qu'il faut malheureusement fermer? Puis c'est arrivé dans le passé. Puis pas toujours des sections aussi importantes. Là. C'est quand même 325 élèves là, qui sont touchés par ça. On retourne dans le monde de l'éducation ce matin pour parler d'un projet de loi qui va être déposé par Québec solidaire, mais avec l'appui des autres partis d'opposition concernant les violences sexuelles dans les écoles. Et là, on parle pas du collégial de l'université, là, on parle du préscolaire et du secondaire. On sait que le ministre Dainville a annoncé des enquêtes. Il a aussi annoncé la création d'une ligne téléphonique. On a découvert avec la presse que cette ligne était en fait une boîte vocale où on demandait de laisser un message. Autrement dit, c'est un système qui ne fonctionnait pas très bien. Et je vais en parler ce matin avec la députée de Québec solidaire de Mercier, Ruba Gazal, qui est aussi celle qui porte le dossier de l'éducation. Ruba Gazal, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcan.
D'abord, qu'est-ce que vous souhaitez concrètement avec le projet de loi? C'est pour faire quoi?
Le projet de loi, ce qu'il dit, c'est qu'il rend obligatoire pour toutes les écoles, comme vous l'avez dit, préscolaires, primaires, secondaires, d'avoir une politique dans laquelle les rôles et responsabilités de la direction, du personnel scolaire en lien avec la lutte contre les agressions sexuelles soient vraiment définis. C'est-à-dire que dès qu'un jeune vit une situation d'agression sexuelle, peu importe la nature, puis qu'il en parle avec un adulte dans l'école ou que ça c'est, mais que tout le monde dans l'école sache ce qu'il doit faire et qu'on n'attende pas que le jeune doive appeler la police et tout ça pour dénoncer. Il faut que dans l'école, ça soit sécuritaire et ça, c'est obligatoire dans une politique. Et pour ça, ben la loi rend aussi obligatoire la formation de tout le personnel scolaire pour qu'il sache quoi faire, pour que plus jamais un jeune mineur, là, un mineur se fasse agresser dans l'école qui doit être un lieu sécuritaire. Puis ça prend une loi, puis ça prend du leadership. Puis c'est pour ça que moi, je suis très, très fière. Moi, j'ai déposé le projet de loi jeudi dernier, puis hier, on était en point de presse, la salle était bondée. Tous les partis d'opposition de l'Assemblée nationale du Québec ont uni leur voix avec les jeunes qui demandent cette loi depuis de très, très nombreuses années okay. pour les protéger.
Bon, ça, je comprends. Je vais vous soumettre des cas, puis vous me direz jusqu'à quel point ce n'est pas couvert actuellement et que éventuellement ce le sera si le projet de loi est adopté. Je croyais, en fait, je pensais que quelqu'un qui, par exemple, signalait un cas d'abus sexuel, un jeune en quatrième année qui se confie à quelqu'un, que le prof est au courant, il y a ce qu'on appelle les ententes multisectorielles. Autrement dit, que ça remonte à la DPJ, ça remonte à la police enfin, si c'est nécessaire. Je pensais qu'il y avait déjà en place dans le système scolaire des mécanismes comme ça.
Oui, cette entente tripartite là qu'on appelle dans le jargon existe pour signaler tout de suite à la DPJ. Mais des fois, l'agression, c'est pas nécessairement, comme je vous dis, une agression sexuelle, ça peut être de n'importe quelle nature. Par exemple, il y a des profs, puis moi, il y a un prof qui m'a appelé pour se plaindre dans une école d'un autre prof qui passait des commentaires vraiment qui n'ont pas leur place à l'école à des jeunes filles. Ils faisaient par exemple aussi des sorties scolaires et tout le monde était au courant qu'il y avait cette façon d'agir avec les jeunes filles puis que c'était pas acceptable. Et quand le prof dénonçait la situation et en parlait avec la direction, on lui disait « Ah, essaye de le sensibiliser ». Donc, c'est sûr qu'on n'appelle pas la DPJ dans un tel cas, non. Mais ce genre de comportement-là est intolérable. On peut pas le tolérer et la politique ou le projet de loi que je dépose va rendre obligatoire à n'importe qui d'agir, à commencer aussi par la direction. Ce genre de comportement-là, on peut pas juste mettre des placarder les murs pour dire que c'est tolérance zéro. Il faut aussi que dans la réalité, ça s'arrête. En ce moment, c'est pas le cas.
Ben, c'est parce que, ouais, non, mais dans le cas des enfants, vous parlez de cette entente qui existe, là, c'est vrai. Faut peut-être la renforcer, peut-être avoir des mécanismes plus clairs. Dans le cas des profs, c'est vrai que la direction doit prendre la responsabilité. Là, on voyait la semaine dernière des profs qui pétaient des coches, c'est une chose, là. Mais quand on parle de profs qui auraient des attitudes, des comportements, des inconduites sexuelles avec des collègues ou avec des élèves, il y a une responsabilité, évidemment, de la direction, mais aussi des collègues puis du syndicat. Parce que moi, on me signale des cas où on le sait depuis longtemps qu'un tel avait des antécédents, qu'on l'a changé de centre de service scolaire. Mais personne bouge. On veut pas faire trop de vagues. On veut pas dénoncer un collègue. Mettez-vous une obligation de le faire?
Ah, oui, c'est obligatoire. C'est-à-dire que dans la politique, ça le dit dès que il y a un cas qu'on entend, qu'on est témoin, là. Des fois, on peut être juste témoin. Un adulte qui est témoin, c'est souvent le cas. On est obligé d'agir. Sinon, il peut avoir une conséquence. Puis ça serait défini dans la politique. Et quand je vous dis une politique, c'est que chaque école va faire une politique. Puis ce qui est écrit dans la politique est défini dans la loi, dans le projet de loi que j'ai déposé. Donc, souvent, là, dans les cas que vous mentionnez puis qu'on entend dans les nouvelles, souvent, ce qu'on apprend, c'est que tout le monde est au courant. Puis personne n'a rien fait. Ou des fois, quand il y a quelqu'un qui signale une situation à la direction fait rien et ça continue. Puis pendant ce temps-là, ben ce sont nos jeunes dont même les études sont hypothéquées parce qu'ils sont mal dans cette situation-là. L'école, Monsieur Arcan, ça doit être l'endroit le plus sécuritaire, aussi sécuritaire qu'à la maison. Puis en ce moment, parce qu'on n'a pas cette loi-là, parce que cette loi-là qui est demandée depuis longtemps, qui existe dans les cégeps, dans les universités, mais pas pour protéger des mineurs, bien, à cause de ça, bien, on ne prend pas notre responsabilité pour protéger les mineurs et l'école est en train de devenir le pire cauchemar de certains élèves et c'est inacceptable.
Est-ce que vous avez jasé avec le ministre de ça, là, s'il est parti d'opposition? Oui, qu'est-ce qu'il a dit, le ministre?
Le ministre nous dit ce qui existe en ce moment est suffisant. Ça, il me l'a dit avant de déclencher l'enquête puis de nous garrocher une ligne téléphonique qui marche pas, là. Et là, moi, ce que je sens, c'est que le ministre, évidemment, il est sensible face, comme tout le monde, quand il entend tout ce qui se passe dans les nouvelles. Donc, il s'agite. Il fait des actions à gauche et à droite qu'on n'est pas sûr qu'est-ce que ça va donner. Alors que la loi que je propose, le projet de loi, comme je vous le dis, il existe pour protéger des jeunes adultes dans les universités et les cégeps. Donc, il n'y a absolument aucune raison pour pas que le ministre n'agisse pas. Et là, il y a les oppositions qui se sont unies, il y a la Voix des jeunes contre, il y a aussi plein d'organismes qui font de la sensibilisation, qui agissent pour faire aussi de la prévention des organismes dans la société civile contre les agressions sexuelles des mineurs. En ce moment, le ministre Bernard Drainville est pas mal seul. Donc, moi, je vais tout faire. Je vais le talonner pour que d'ici la fin de la session, on adopte cette loi-là pour protéger les jeunes, parce qu'on peut pas juste s'agiter à gauche et à droite comme il le fait, là. Okay. Il faut agir et ça prend une loi.
Merci. Bonne journée. Ruba Gazal est la députée de Mercier responsable pour Québec solidaire du dossier d'éducation.
L'essentiel de Paul Arcan.
Je vous le disais, il y a eu une entente cette nuit entre le Conseil du Trésor fédéral et le syndicat qui représente 120 000 membres, donc fonctionnaires. C'est une entente qui amène le retour au travail vers 9 heures ce matin, mais il y a quand même 35 000 fonctionnaires qui travaillent à l'impôt, qui, eux, poursuivent les moyens de pression. Les grandes lignes qu'on connaît, ça a été rendu public, là, 12,6% sur 4 ans, un montant forfaitaire de 2 500. Et pour ce qui est du télétravail, ça demeure nébuleux, c'est-à-dire qu'on prévoit qu'il y aura une négociation d'une lettre d'entente stipulant que les gestionnaires devront évaluer au cas les demandes de télétravail et fournir une réponse écrite. C'est pas exactement comment ça va se traduire, mais je voulais avoir un peu le son de cloche ce matin avec cette entente au fédéral de peut-être comment c'est perçu pour les gens, les centrales syndicales, les présidents et présidentes qui négocient avec Québec. Magali Picard, la présidente de la FTQ, est avec nous. Il faut rappeler qu'elle a déjà été vice-présidente régionale là, de l'Alliance de la fonction publique du Canada. Madame Picard, bonjour.
Bon matin, M. Arcan.
Comment vous trouvez l'entente à première vue?
À première vue, écoutez, je trouve ça très intéressant. Moi, voyez-vous, la fameuse entente pour ce qui est du télétravail, d'être capable de se faire un comité paritaire qui va évaluer chacun des cas, je trouve pas ça mauvais du tout. Entre vous et moi, là, le télétravail, ça fait quand même pas, vous allez me dire, ça existait avant la pandémie, mais d'une façon aussi importante, c'est quand même du jamais vu. On ne sait pas trop quelles seront les répercussions dans 2 ans, dans 5 ans, pour les travailleuses et travailleurs de travailler à domicile à temps complet. Alors, moi, je pense que c'est un compromis qui va faire l'affaire de la fonction publique, des travailleurs, des membres que la FPC représente. Moi, je vois ça d'un bon oeil, très honnêtement.
Qu'est-ce qui marche pas avec l'impôt, vous pensez?
Ben, écoutez, ce que j'entends avec l'impôt, c'est que, et là, je veux pas créer de fausses attentes, mais qu'on s'attend vraiment à ce qu'aujourd'hui ou demain, au maximum, on ait une entente de principe. Et l'équipe de négociation travaille extrêmement fort. Je sais que leur président et toute l'équipe de négociation, là, sont en réunion à temps complet. Je pense pas que ces gens-là dorment beaucoup dans les derniers jours. J'ai pas le détail. Mais vous savez, habituellement, si je veux vous parler de l'expérience que j'ai, là, c'est que le Conseil du Trésor va faire une offre comme ils ont fait à la FPC. Et là, dans les heures qui suivent, les agences, vous savez que depuis le temps de Stephen Harper, c'est maintenant le Conseil du Trésor qui siège également aux tables de négociation des agences. Alors, moi, je m'attends à ce qu'il y ait une offre à peu près similaire au courant de la journée ou demain. Et c'est ce que j'entends dans les coulisses.
OK. De quelle façon un cadre de règlement comme celui-là peut influencer la négociation à Québec?
Ben moi, je pense que ça va être extrêmement positif pour toutes sortes de raisons. Premièrement, ce que j'ai apprécié, M. Arcan, c'est que le gouvernement, j'aurais aimé une négociation qui se termine avec une poignée de main et une entente de principe sans grève. Ceci étant dit, le gouvernement, pour une fois, a laissé les travailleurs manifester, ont laissé les travailleurs mettre la pression nécessaire pour aller chercher le meilleur contrat de travail sans législation. Donc ça, c'est un message que j'aimerais bien que le gouvernement du Québec retienne pour la négociation actuelle. Je suis pas en train de vous parler de conflit, mais ce que je dis, c'est que ça avance pas rapidement. Et le message, je pense, c'est que le gouvernement québécois devrait voir que les travailleurs en 2023 ont pas l'intention de baisser les bras. Pour ceux qui pensaient que justement qu'il y a bien des gens en télétravail, que la mobilisation serait difficile, mais là je pense qu'on vient d'avoir un exemple avec des dizaines de milliers de fonctionnaires à travers le pays qui ont manifesté, qui ont pris la rue. Écoutez, je pense que c'est un message à Québec pour dire soyez sérieux là. Venez aux tables de négociation avec des offres, pas juste vos priorités, écoutez les priorités des travailleurs également. Parce que notre monde ne resteront pas silencieux et on veut une négociation raisonnable. Et là, ben, je vous dirais pas que ça va pas bien, mais je peux vous dire que on a hâte de pouvoir parler des priorités des travailleurs au-delà de celles du gouvernement et c'est les seules qu'on traite actuellement depuis des semaines.
On sait que, je veux pas réduire là, les demandes syndicales du côté fédéral. Il y avait évidemment les augmentations de salaire, le télétravail, la sous-traitance. Est-ce qu'en gros là, à Québec, ce sont les mêmes enjeux?
Oui. C'est clair que les augmentations de salaire, la sous-traitance, il y a plusieurs des enjeux qui se ressemblent. Toutefois, je serais pas honnête si je vous disais qu'il n'y a pas d'autres enjeux au niveau de la négociation au Québec. On a aussi besoin d'aide supplémentaire, de bras supplémentaires, ce qui n'était pas nécessairement le cas dans la négociation avec le gouvernement du Canada. Là, le problème de rétention ou d'embauche, oui, c'est un employeur qui va faire beaucoup, beaucoup de dotations, le gouvernement du Canada, dans les prochaines années. Mais rien de comparable avec ce qu'on vit au Québec au niveau du besoin. Vous savez, on le sait tous, là, que ce soit en santé, dans notre réseau scolaire. Moi, c'est pas des farces. Dans mon fils, c'est 30 secondaires 5, M. Arquin. Puis, il y a un professeur qui est absent présentement. C'est un homme qui est, il y avait une compagnie de construction à la retraite qui fait la il est bien gentil là, mais vous comprendrez qu'il n'y a pas la formation pour être professeur, mais comme ils ont personne, c'est cet homme là qui fait le remplacement actuellement. Donc ça pour vous dire que il y a des enjeux comme ça là. T'sais, on a un besoin criant au Québec d'amener de l'aide supplémentaire dans les milieux de travail. Le travail supplémentaire obligatoire, c'est un enjeu majeur. Il y avait pas ça là dans la négociation fédérale.
Merci Madame Picard, bonne journée.
Merci à vous. Bonne journée, M. Arcand.
Magali Picard est la présidente de la FTQ et j'ajoute aussi que le dépôt du projet de loi à Québec sur l'agence de santé puis le fait de réunir sous un même employeur les accréditations syndicales puis de permettre à l'ancienneté de voyager, ça aussi, veut pas, ça va devenir un enjeu. Puis juste compléter sur l'éducation, il y a des gens qui m'envoient ce matin, puis c'est peut-être un signe des temps, un questionnaire qui est envoyé au personnel, tout le personnel, par exemple, du centre de service des Hautes-Rivières, où on vous pose des questions très précises sur comment ça va, quel est votre état d'esprit actuellement. Je ne ferai pas le tour des questions parce que c'est assez long, là, puis on invite les gens à répondre. J'ai des occasions pour discuter de ma charge de travail avec les gestionnaires. J'ai confiance en mes gestionnaires. J'ai accès à toute l'information pour bien faire mon travail. Il n'y a pas de tension à l'école. Et là, je continue comme ça, je reçois le soutien nécessaire, le partage est équitable entre les collègues ou pas, là, t'as le choix de m'en dire oui ou non. Et vous avez même des questions sur, par exemple, au cours du dernier mois, à quelle fréquence vous êtes-vous senti nerveux, nerveuse? Veux pas, là, ce qui est arrivé, à partir de cas isolés, ben ça amène peut-être des gens à prendre conscience, justement, de professeurs là qui sont à bout, puis qui ont des attitudes puis des réactions qui n'ont pas d'allure, mais qui peuvent en partie s'expliquer là, par cette pression énorme.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcand.
On va parler de fraude maintenant. J'en ai vu de toutes les sortes, mais celle-là, c'est quelque chose. Notre victime de fraude ce matin s'appelle Amélie. Et vous allez voir comment les fraudeurs, d'abord, ont eu accès à ces informations personnelles et aussi comment ils ont, je dirais, fait preuve d'un sang-froid pour échanger directement avec l'institution bancaire. Vous imaginez, là, vous avez au téléphone quelqu'un qui vous fraude, qui se fait passer pour la banque, puis quelqu'un qui est vraiment de la banque. Amélie, bonjour.
Bonjour, M. Arcand.
D'abord, racontez-nous comment les fraudeurs ont eu accès à vos informations personnelles, là, à votre carte de crédit et autres infos comme ça.
Ouais, ben mardi dernier, moi et mon conjoint avons pris la très mauvaise décision d'aller prendre une marche au parc de la Cité à Saint-Hubert. Et par la suite, j'ai fait l'erreur de cacher mon sac à main dans mon véhicule et on était assurément observés par les voleurs. Là, d'ailleurs, la police m'a confirmé qu'il y avait des réseaux un peu partout dans les parcs et aussi dans les stationnements de cinéma. Donc, avec toutes les caméras qui installent un peu partout, on pourrait penser qu'on devrait être plus en confiance, mais c'est pas le cas. Alors, ils ont volé ma carte de crédit, ma carte débit, chèque, mon argent comptant aussi, mon permis de conduire. Toujours est-il que lorsqu'on revient à notre véhicule, nous, il n'y a rien qui nous laisse croire qu'on a été volé, tout est en place. Donc, on quitte pour un restaurant de Brossard. Et quelques minutes plus tard, je reçois un appel masqué que j'hésite de prendre, mais que je prends quand même, et c'est une Christina du service de département de la sécurité de ma banque qui veut me prévenir de quelque chose. Et là, moi, je vois appel masqué, banque, et je me dis que c'est de la fraude. Donc, je raccroche dans bon québécois, je la floche. Et on continue jusqu'au restaurant. C'est à ce moment-là, naturellement, qu'on a vu qu'on s'était fait voler. Donc là, elle m'a appelé 5 fois. Ça, elle a fait 5 appels par la suite. Donc là, moi et mon conjoint, on se regarde, on me dit, bon, finalement, c'était peut-être pas de la fraude, elle voulait peut-être vraiment nous aviser de quelque chose, mais là, on n'avait pas son numéro, donc nous, on entre en contact avec Mastercard directement, on parle à une agente, la première question qu'on lui pose, naturellement, c'est les transactions qui ont été faites, et jusqu'à ce moment-là, il n'y a rien de frauduleux, ce sont nos transactions. Donc, ça nous sécurise un peu, mais là, je lui parle des appels qu'on a eus, et là, en disant ça, je reçois un appel de la Christina en question. Donc là, je dis à l'agence avec qui je suis...
Attendez, là, pour que ça soit bien clair. Là. Vous, là, vous avez quelqu'un qui vous appelle, vous prenez pas l'appel. Vous dites, je vais appeler moi-même, vous parlez à quelqu'un de la banque, là. C'est vous-même qui faites la démarche. Puis pendant que vous lui parlez, il y a cette personne-là qui rappelle. Vous avez donc les deux en même temps, là.
Oui, c'est ça. Puis là, je l'ai dit à l'agente que je vais nommer Debbie, là, pour les besoins d'entrevue. Et elle me dit... Prenez l'appel, Mme Laramie, mettez-moi en attente. Donc, c'est ce que je fais. Je prends l'appel de la personne. Et là, moi, je lui dis, écoute, je peux pas te parler. Je suis en ligne avec Mastercard pour annuler mes cartes. On s'est fait voler. Et elle me dit, oui, je le sais, Mme Laramie. Ça fait 20 minutes que j'essaie de vous rejoindre pour vous en aviser, mais vous prenez pas mes appels. Donc là, elle me demande pour les besoins de l'enquête. Ça doit être son département qui fasse les démarches. Et elle me demande de la mettre en communication avec sa collègue. Donc, ce que je fais, je nous mets en conférence les trois. Et là, elle nous explique qu'il y a 900 $ qui étaient pris sur ma carte de crédit en cash. Et ça, ça a fait une alarme au département parce que moi, j'avais jamais pris d'argent sur ma carte de crédit. C'était vrai, ça, c'était vrai. Donc, ça avait fait une alarme. Et là, moi, la personne de Mastercard ne dit pas quoi que ce soit. Fait que là, je lui pose la question, je la challenge. Je dis, OK, comment ça se fait que vous voyez la transaction, mais que Debbie la voit pas, elle? Et là, elle me dit, oui, ce genre de transaction-là, ça prend certains temps pour les départements. Nous, on l'a en temps réel. Et Debbie acquiesce à ça, là. Elle confirme tout ça. Donc, je dis, OK, moi, ma prochaine question, c'est comment se fait-il qu'ils ont été capables de prendre 900 $ cash sur ma carte de crédit sans mon IP? Et là, elle m'explique que probablement qu'ils m'ont volé des pièces d'identité. Ils ont été capables, via Equifax, d'avoir mon IP. Parce qu'ils ont pu répondre à toutes les questions de sécurité. Fait que là, moi, je tombe des nues, je me dis, ils peuvent donner mon IP, ben voyons donc. Et encore là, la personne de Mastercard ne dit pas, wow, attends une minute, là, que c'est ça, Mme Laramie attendait.
Mais attendez encore un petit peu, là. Là, vous avez, disons, guillemets, la fraudeuse, ça prend du nerf pour parler à vous puis à la banque en même temps, là.
Oui, le policier a dit qu'elle avait des couilles.
OK, mais là, finalement, vous avez quoi? Compléter la discussion avec la fraudeuse?
Bien là, en fait, moi, la personne que j'ai appelée voit que j'ai des doutes. Donc là, elle lui demande d'envoyer un lien Team comme un lien intranet. Fait que là, elle lui dit oui, bonne idée. Mais là, naturellement, ça fonctionne pas, son système fonctionne pas. Puis là, ils ont comme des insides qui se disent tu sais comment ça marche, puis tout. Fait que là, la fille qu'on avait complètement, Debbie, de Mastercard, lui dit ben écoute, donne ton numéro de téléphone à Mme Laramie, elle va te rappeler. Mais là, elle est wise parce qu'elle donne un vrai numéro que Debbie a reconnu. Fait qu'elle, elle pense qu'elle est vraiment de la banque.
On n'a pas affaire à des amateurs, là.
Non. Fait que là, la personne que nous, on avait contactée, Debbie, nous dit, écoutez, je vais vous laisser entre les bonnes mains de ma collègue et je vais à vous décider si vous voulez la rappeler ou continuer.
OK, mais Amélie, ça veut dire, là, en un mot, la banque était rassurée en disant, je vous laisse entre les bonnes mains de ma collègue, 3 petits points, la fraudeuse.
Exact.
OK. Ils vous ont siphonné combien comme ça?
Ben là, parce que là, elle me pose certaines questions et là, elle nous demande notre NIP. Mon NIP. Donc là, je regarde mon conjoint, puis là, c'est comme le sang descend. Tu sais, tu veux pas donner ton NIP. Mais là, elle nous dit quelque chose dans le genre là, il faut les arrêter, Madame Laramie, donnez-moi votre NIP. Alors, je finis, malgré que je trouvais que ça n'avait pas d'allure, je lui ai donné. Et là, en 3 minutes, ils ont pris 17 000 $ sur ma carte de crédit et 1 000 $ dans mes comptes en banque. Mais là, ça s'arrête pas là, M. Arcan, parce que là, lorsqu'elle a eu une NIP, là, elle me dit, Madame Laramie, c'est très important d'appeler au numéro que je vais vous donner, c'est Equifax, parce que là, ils peuvent ouvrir des comptes partout dans le monde. Alors là, dès qu'on raccroche, naturellement, on appelle le numéro qu'elle nous donne. C'est un site automatisé d'Equifax. Ça a l'air très legit. Faites-le 2 pour le français, tout ça. Et la première question qu'on nous pose, c'est composer votre numéro d'assurance sociale. Et là, par la suite, on nous demande de composer la date de naissance. Mais là, tout bonnement, ça fonctionne plus. Là, il reconnaît plus les entrées, tout ça. On tourne en rond, donc on est obligé de raccrocher. Moi, c'est sûr, j'ai appelé un autre numéro pour faire mentionner Equifax qui était fraudé, là.
Ouais, moi, ce qui me frappe dans ce que vous dites, là, c'est d'abord, un, la capacité de réagir puis de s'organiser. Puis deuxièmement, la raison pour laquelle on voulait vous parler ce matin, c'est que quand vous m'avez écrit, vous m'avez dit, quand j'entends des cas comme ça d'arnaque, de fraudeur, j'ai une opinion défavorable des gens qui se sont fait avoir, je les qualifiais de naïfs.
Exact.
On va pas vous qualifier de naïf ce matin, là. Vous êtes tombé dans le piège, mais c'était quand même un papier de stratagème.
Oui, exact. C'est fou, là. Puis même après avoir entré notre numéro d'assurance sociale, mon numéro d'assurance sociale, là, on pense pas qu'on a été fraudé encore. Là. On entend tous les systèmes avec la SAAC, que ça fonctionne pas, tout ça. Donc, on réalise pas encore. Puis c'est quand on est allé à la banque, parce que là, il y a une information que Christine n'a pas pu me sécuriser, c'est mon chèque. Et moi, je disais à mon conjoint, là, on va aller à la banque, on va annuler ce chèque-là parce qu'ils ont ma signature, là, ils peuvent l'imiter. Donc, c'est à ce moment-là, à la banque, que là, on explique la situation et qu'ils nous disent, mon Dieu, Madame Laramie, vous aviez tellement raison de penser que c'était une fraudeuse, c'en était une. Puis là, elle nous explique qu'ils ont pris tout cet argent-là. Mais heureusement, en terminant, on a réagi rapidement. Vous savez, sur les cartes de crédit, il y a des montants qui restent en attente. Donc, ils ont été capables de juste prendre 2 000, finalement. MasterCard était capable de lui couper l'herbe sous le pied là, pour la majorité de la fraude. Là, tant mieux, là, au moins.
Au moins, c'est ça. Ben, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est important, je pense, de partager ça. Peut-être des gens qui vivent la même chose ou qui pourraient vivre la même chose. Merci à vous.
Monsieur Arcan, je peux-tu dire une dernière chose?
Oui.
Ce que j'aimerais que les gens se rappellent et qu'ils disent à tout le monde, leurs collègues, là, c'est qu'il n'y a pas un employé d'une banque, pas un gérant de banque, pas que personne ou fraude ou whatever qui vont vous demander votre NIP. Puis ça, je l'ai demandé à la banque.
C'est sûr.
Ça arrive pas, là. Fait que moi, j'étais prise comme avec quelqu'un qui voulait faire une recherche pour trouver les fraudeurs, mais c'est pas le cas. Il ne faut jamais donner son NIP à qui que ce soit, même s'il travaille pour une banque.
Bonne journée à vous.
Merci, au revoir.
Puis j'allais vous dire, il vous demandera pas votre numéro de NIP s'il travaille pour une banque. C'est le fraudeur qui va faire ça. Merci, c'était Amélie, victime de fraude.
L'essentiel de Paul Arcand.
Bon, il y a un conflit de travail là, qui rend la vie extrêmement difficile à beaucoup de monde. C'est au cimetière Notre-Dame-des-Neiges. Alors, conflit de travail qui fait en sorte qu'il y a eu, donc, accumulation de neige. Le cimetière devait rouvrir ses portes le 31 mars. On a eu le verglas. C'est à nouveau fermé. J'en parle avec Sylvie Lassalle, qui est une citoyenne qui va au cimetière sur une base régulière, ou en tout cas, qui allait au cimetière sur une base régulière. Madame Lassalle, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcan.
Bon, il y a eu un conflit de travail, ça pourrit, ça traîne et tout ça. Et est arrivé le verglas, il y a des arbres qui sont tombés, ce qui fait que quoi, le cimetière est fermé?
Le cimetière est fermé depuis le 5 avril. Il avait été fermé tout le mois de janvier, février, mars, parce que les employés d'entretien étaient en grève, alors il n'y avait pas de déneigement qui se faisait. Alors, ils ont réouvert le cimetière le 1er pour le refermer le 5 avril.
Et là, ça veut dire que donc, il n'y a pas d'accès, vous ne pouvez pas demander une permission, là, c'est vraiment impossible.
Impossible d'aller au cimetière, à part d'avoir un rendez-vous pour aller soit au crématorium, là, ou à la mausolée. Sinon, il n'y a aucun enterrement là qui peut se faire. Alors moi, je pense à ces familles-là qui sont en deuil de leur être cher, qui peuvent pas enterrer là, la personne parce qu'ils sont en grève. On a vécu ça, nous autres, déjà, avec notre père en 2007. Il était décédé en juillet, puis on a pu l'enterrer seulement au mois de décembre. C'est long à attendre ça. L'enterrement, ça fait partie d'un rite funéraire. C'est important pour tous ces gens-là de passer à travers toutes ces étapes-là.
Et vous aviez l'intention d'y retourner la semaine prochaine là, pour souligner l'anniversaire du décès de votre mari.
Exactement. Mon mari, moi, il est décédé au mois de mai l'année dernière. Puis ma petite fille, ça fait 2 mois qu'elle me dit qu'elle va aller fêter sa fête. Ça a été sa fête la semaine dernière. Puis elle voulait aller fêter sa fête avec son papy. C'était son premier anniversaire sans son papy. Alors, c'est important pour elle, là, la semaine prochaine, d'aller fêter son anniversaire. Alors, encore hier, elle me demandait que c'est quand, mamie, qu'on va au cimetière. Ben, j'ai commencé à la préparer puis lui dire, ben, peut-être qu'on pourra pas y aller, ma chouette, au cimetière la semaine prochaine.
Mais vous me corrigerez, Mme Lassalle, là, mais il me semble que ça fait des années et des années qu'il y a des problèmes de relations de travail. Je me souviens de gens qui se plaignaient de l'absence d'entretien, de l'herbe qui poussait, des tombes qui étaient pas du tout entretenues. C'est pas un conflit récent. On a l'impression qu'ils sont dans un conflit permanent.
Ça dure. Sont sans convention collective depuis 2019. Moi, je vais au cimetière à tous les ans, plusieurs fois par année, depuis au moins 1994, quand ma grand-mère est décédée. Puis j'avais trouvé à ce moment-là, le terrain, c'était beau, les gens entretenaient les terrains, le gazon était coupé, il y avait des fleurs partout. Aujourd'hui, là, on dirait que le cimetière est abandonné, c'est délabré. On voit vraiment le cimetière se détériorer. Avant, il y avait des sources d'eau où on pouvait aller chercher de l'eau justement pour arroser les plantes, les fleurs. Maintenant, il n'y a plus d'eau. Moi, je transporte mes cruchons d'eau à tous les fois que j'y vais. L'année dernière, quand mon conjoint est décédé, la semaine avant de faire la mise en terre, on est allé avec nos tailles bordures puis nos ciseaux se faire un chemin parce que l'herbe, ça avait 3 pieds d'eau. Là.
C'est pas de bon sens.
Ça n'a aucun bon sens. Franchement, là, c'est en décrépitude là, le cimetière.
Ben bon courage à vous. J'espère que votre message sera entendu. Merci beaucoup, Mme Lassalle. Bonne journée.
Merci, M. Arcand.
Au revoir. Sylvie Lassalle veut simplement se rendre dans un cimetière. T'sais, c'est tout un défi, ça, aujourd'hui. Et savez-vous quoi? On a tenté de parler aux deux parties, syndicales et patronales, et devinez. On ne parle pas pour ne pas nuire aux négociations. Comme si les négociations s'avéraient un succès. C'est un laboratoire pourri de relations de travail, année après année. Et la conséquence, c'est ce qu'on vient de décrire. Et bref, c'est à l'abandon, puis les gens n'ont pas accès. Parce que là, il faut tasser le bois, puis c'est trop dangereux. Puis on ne peut pas croire qu'au ministère du Travail, on peut tolérer une situation comme ça. Puis c'est pas là, tu dis c'est un épisode, c'est une mauvaise négo. Non, non, ça fait des années que le climat de travail est pourri à cet endroit.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.